Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'ai remarqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec Dessy, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Pierre Ducros, Jérôme Rotten. Attention parce que là les témoignages tombent. Damien Périnel nous écrit, il nous dit: moi, mon premier match, c'était à PSG Monaco, tribune Boulogne, avec Ettori dans les buts, et tout le club chantait Ettori, il a un petit...
Voilà. Zizi, ça rime.
Ça rime, voilà. Ouais, ouais. Ça l'a marqué, Damien, vraisemblablement, puisqu'il se souvient absolument de ça. voilà. Je recherche France-URSS en 80. Alors, en 80, Daniel, il y a eu un URSS France au stade Lénine à Moscou, donc je pense pas que c'est celui-là que t'es allé.
Non, je suis pas. Non, là, l'autobus de Ris-Orangis, il ne peut pas faire la distance. Hein.
Ça dépend, c'était quoi comme municipalité à Ris-Orangis à l'époque?
Ah, ça correspond complètement. Ris-Orangis, ça correspondait parfaitement à un voyage en URSS, je te le garantis.
Yes, alors, c'était une mairie communiste. En 77 et en 83. Donc, à choisir.
83
ouais.
Alors, 83, ok.
Ou 77.
Le 83 avec but de Louis ou pas?
Alors, suite 77, c'est 0-0. Donc, pas de but de Louis en l'occurrence.
Non, le 83, je suis sûr qu'il y a. Regarde s'il n'y a pas Louis qui marque.
Peut-être. On va regarder ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai un message concernant ton match de Hugo qui nous dit: c'est donc lors de ce France-URSS que Daniel est devenu un amoureux du communisme.
Non, ça c'est impossible.
Donc attends, 83, j'ai la fiche sous les yeux.
Ça, je serai toujours.
Oh, Jean-Pierre Tempé dans les buts, dis donc. Alors là, il y avait de
voilà,
la,
c'est
la,
ça.
Là, il y avait de l'équipe. Non,
je serai toujours, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre, un chien, puisque je suis anticommuniste et qu'il disait que tous les anticommunistes étaient des chiens.
Ah bon?
Donc je suis un anti-Sartre et un chien.
Détail des buts. Premier but du russe Tchernenkov, enfin du soviétique, on disait à l'époque. Égalisation de Luis Fernandez à la 42e, tir à terre dans l'axe sur une ouverture d'Amis.
Absolument.
Voilà. Oh, Loïc Amis.
Exactement.
Loïc Amis.
Messieurs, on va continuer notre séquence souvenir. Là. On a Flavien avec nous. Salut Flavien.
Bonsoir à tous.
Flavien.
Bonsoir Flavien.
Et donc finalement, ça n'était pas le premier au final, parce que je n'ai pas retrouvé. Donc.
Flavien, t'as quel âge?
J'ai 25 ans.
Très bien. Donc toi, ton premier souvenir de foot?
Alors justement, je voulais en parler parce que en fait, vous avez chacun à votre manière participé de manière active dans mon éducation foot. Pierre, parce qu'il était sur le terrain pour mon premier match au parc, quand j'avais 6 ans.
Ouh.
Un PSG Rosenborg qui s'était terminé en 7-2.
C'était pas le plus mauvais match à voir pour débuter. Ouais.
Voilà, j'étais allé avec mon cousin et je m'étais retrouvé sous le maillot au PEL et je me rappelle encore que les mecs derrière moi fumaient de la beuh pendant tout le match.
Ouais, ça c'était pas propre à ce match-là, je pense.
Non, c'était tout le temps. Et puis après, Daniel et Gilbert, parce que j'écoute l'After depuis le premier jour, vu que j'écoutais les DKP avant, donc ça vous donne un peu idée. Et puis Jérôme, t'étais sur le terrain le jour de mon premier match à l'extérieur, à Bonal, un Sochaux PSG qui aurait dû valoir une statue devant le parc à Maradiané.
Ah, le fameux Sochaux PSG.
Le fameux match.
Voilà. Et Daniel.
C'est marrant parce que c'est les souvenirs dont vous nous parlez, c'est des matchs, tu vois, un peu des matchs de championnat, des choses comme ça, quoi.
Ouais. Mais c'est pas ça le souvenir, hein. C'est pas ça de ce dont je suis nostalgique. Et si je peux juste rajouter, Daniel, je t'ai interviewé il y a 3 ans pour mon mémoire de fin d'études sur l'équipe de France en tant que reflet de la vie politique et sociale française. Voilà. Donc ça a été la dernière étape dans mon éducation foot.
Très bien, je me souviens.
Et donc moi, les deux choses dont je suis nostalgique, ça va vous paraître bizarre et Daniel, ça va te plaire, c'est l'époque où on avait peu de matchs à la télé. Et on ne recevait pas les résultats directement sur nos portables, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en voit tellement, en fait, qu'on apprécie moins les beaux matchs.
Mmh.
Et la deuxième chose, c'est l'équipe de France de Zidane, et notamment la Coupe du Monde du 2006. Et j'ai souvenir fameux qui illustre ça, en fait. Et c'est la journée du samedi 1er juillet 2006. Mmh. En fait, c'est plus la journée que le match, le soir, qui était France-Brésil. Parce qu'en fait, ce jour-là, c'était le jour de mes 12 ans.
Mmh.
Et je vivais en Angleterre, en pensionnat. Et en fait, le match se terminait tellement tard qu'on n'avait pas le droit de le regarder. On n'aurait pu regarder que la première mi-temps. Donc pendant la semaine, je négocie avec les pions en disant que comme c'est mon ami, est-ce qu'on peut rester voir le match jusqu'au bout avec des potes? Et on me dit oui. Et le jour du match, je me réveille, mes potes me demandent ce que je veux, ce qui se passe aujourd'hui. Et je leur dis, bah voilà, il y a Angleterre-Portugal avant. Donc, bon, grand amoureux de Paoletta. Et puis en même temps, je suis un peu provocateur. Je leur dis, bah le Portugal gagne et la France aussi. Et ils me disent, bien sûr, que les deux sont impossibles. Et pendant Portugal-Angleterre, si vous vous rappelez, c'est Rooney qui marche sur les bijoux de famille de Ricardo Carvalho.
Bien sûr.
Et je me fais insulter plus que gentiment, car au final, le Portugal les élimine. Et arrive le fameux France-Brésil.
Ça se termine pas au péno, ce Portugal-Angleterre ?
Ouais, ça se termine au péno.
Bien sûr.
Ils sont éliminés au péno, ouais. Sur le péno de Simao.
Comme souvent les Anglais, hein, les pénaux, c'est pas leur truc.
Voilà. Et donc pendant le France-Brésil, ils me font la totale. Au bout de 5 minutes, ils me débranchent la télé pour que je regarde pas. Ils passent le temps à m'insulter. Si bien que quand Henri marque à la 56e, je pars en live en gueulant et en courant dans tout le pensionnat. Bien sûr, je me fais engueuler et punir avec tous mes potes. Et donc, on retourne dans nos chambres sans voir les 35 dernières minutes.
Oh. Aïe.
Donc, et à l'époque, j'ai pas de portable ni internet à disponibilité. Donc, je ne suis pas au courant du sport. Et dimanche matin, d'habitude, pendant la Coupe du Monde, les pions annonçaient le matin au petit-déj les scores des matchs de la soirée. Et là, ils refusent d'annoncer le score. Bon, un peu parce qu'ils sont rancuniers que l'Angleterre soit fait éliminer. Et puis aussi pour me punir. Et au final, j'apprends le score qu'au déjeuner. En fait, mon prof principal se dirige vers ma table au réfectoire. Et là, je pensais vraiment que j'allais passer un sale quart d'heure, parce que généralement, quand il vient me voir, c'est pour punir plus qu'autre chose. Et en fait, il m'apprend le score final en me disant c'est 1-0. Et en gros, c'est une de mes plus grandes émotions de foot, même si je l'ai vécu 12 à 14 heures plus tard, le lendemain midi.
Incroyable, ce sont je pense français.
Génial.
Je pense. Je vais aller plus loin. Depuis, j'ai revu le match 4 ou 5 fois. Et j'ai jamais dépassé la 50e minute. Je suis jamais allé plus loin. De peur
parce que tu veux pas.
Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai peur de ternir le souvenir que j'avais de ce match-là. Et je suis sûr que si aujourd'hui je regardais les 35 dernières minutes, je serais déçu. Et puis c'était le match où Zidane justement a fait sa masterclass.
Ah bah oui. Ah
ouais. C'est dommage parce que tu l'as pas vu en entier du coup la masterclass de Zidane.
Oui. Non, et j'ai jamais vu ces 35 dernières minutes et je pense que je les regarderai jamais parce que je veux surtout pas ternir mon.
Bon, bah on va pas te spoiler ce qui s'est passé. Hein.
Non.
Je sais jamais, des fois que c'est une surprise,
non,
toi tu regardes.
En termes d'émotion,
je pense que pour les moins de
30
ans.
T'as raison, c'est fabuleux.
Je pense que pour les moins de 30 ans, en majorité, le souvenir commun, ça doit être ce France-Brésil de 2006.
Et en plus, moi j'ai.
C'est un match de génération, je pense.
J'ai fait toutes mes études en Angleterre, donc je suis un grand supporter du PSG, donc j'ai vécu, quand j'étais à l'université, j'ai vécu au pub de l'université, le PSG, le Chelsea PSG, le 2-2 avec.
David Luiz et Thiago Silva.
L'expulsion d'Ibra l'expulsion d'Ibra et le but de Thiago Silva après.
Au bout de 30 minutes, ouais, t'as raison.
Voilà.
Flavien, écoute, bravo, c'est sympa, c'est quand même étonnant les anecdotes qu'on peut avoir. Oui, vas-y.
Alors, pour terminer sur cette histoire, en fait, au moment où Cavani efface Courtois et frappe sur le poteau, au moment où il efface Courtois, je me lève et de rage, quand il met la balle sur le poteau, je frappe sur le premier truc qui était à côté de moi et c'est un énorme pylône en béton et un poteau en béton qui était dans le bar et je passe la soirée à faire la fête avec mes potes après la qualif et le lendemain matin, je vais à l'hosto et j'avais deux phalanges de cassé.
Flavien.
Les Anglais m'avaient tellement chauffé depuis le début du match que fallait que
l'adrénaline. Ça sorte
à un moment ou un autre.
Tiens, Flavien, écoute ça.
Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au but.
Volée plat du pied de Thierry Henry.
Thierry Henry, deuxième poteau. 36e but.
Voilà.
Sur ce but, ce qu'il faut quand même bien regarder, c'est que Thierry Henry est laissé tout seul. Il n'a pas un défenseur brésilien à 3 mètres.
Ah non, Roberto Carlos, il faisait ses lacets. T'en souviens
pas. Il y en a qui faisait ses lacets.
C'est lacets.
Salut, Flavien,
seule passe
merci.
Décisive de Zidane pour Henry.
Exactement. Ouais. Attention, messieurs, là, on enchaîne avec Valentin, qui est supporter marseillais. Salut, Valentin.
Ouais, salut, l'after. Salut, l'after.
Bonsoir, Valentin.
C'est un plaisir de vous avoir au téléphone.
Bah écoute, nous aussi, t'as quel âge, Valentin?
J'ai 25 ans, moi aussi, comme Flavien. Voilà, pareil. Donc, je me souviens de 2006, moi aussi, isolé, bien sûr, tout ce qui raconte les France Espagne, les France Brésil, tout ça, c'était incroyable. Mais moi, c'est surtout ce que je voulais parler. Mon premier souvenir, donc c'est 94, et donc 98 et 2000, moi, je m'en rappelle pas. Et en fait, mes premiers gros souvenirs foot, c'est la campagne de l'OM en USA en 2004 avec Drogba. Et en fait, c'est vraiment l'année où.
T'as quel âge à ce moment-là?
Ben, j'ai à peine 10 ans, en fait.
D'accord. Et tu regardes toute la campagne, tu as le droit de la regarder à la télé, tes parents te laissent regarder les matchs.
J'ai mon grand frère qui est au stade, qui était abonné au MTP à l'époque.
D'accord, donc ça aide, ouais.
Et mon père supporter, et c'est vrai que les matchs en semaine et tout, c'était compliqué. Mais je me rappelle des matchs entiers, contre l'Inter, contre Liverpool, et bien sûr Newcastle, avec le record d'affluence à l'époque au Vélodrome et tout. C'était une année de fou. Et d'ailleurs, ça m'a amené à réfléchir à ça aussi par rapport à... Vous savez, quand vous faites les équipes et tout, les meilleures équipes de l'époque, ouais. Des fois, on entend qu'il y a Drogba. Des fois, il y en a qui mettent Drogba, vous savez, les meilleurs attaquants de l'OM et tout. Mmh. Bon, Daniel, tu es souvent d'accord, mais tu as raison. Dans l'histoire, c'est pas Drogba. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour les gens de ma génération, nous, on n'a pas connu les Scobar, les Scoblar, les Magnussen.
Tu sais, excuse-moi de te couper.
Donc, c'est Magnusson.
Je sais pas, à chaque fois que les gens mettent Drogba, contrairement à ce que tu as dit, je suis pas toujours fondamentalement en désaccord parce que je sais à quel point pour les mecs de ta génération, même s'il n'est resté qu'un an, cette année-là a été tellement dingue avec cette finale et il a lui été tellement fort que je peux comprendre que les mecs le mettent. Après, effectivement, si le panorama de toute l'histoire de l'OM, évidemment qu'il y a d'autres mecs à mettre. Mais je conçois que pour les mecs, et c'est pour ça qu'on faisait d'ailleurs et qu'on a voulu avec la bande aujourd'hui faire ce comparatif générationnel des souvenirs. Et c'est justement pour montrer qu'un mec comme toi, cette épopée-là, elle l'a marqué et la vedette, c'était Drogba. Voilà.
Et c'est ça, parce que moi, vous savez que voilà, avant Drogba, mes souvenirs foot à l'OM, les attaquants, c'était Cyril Chapuis, Lamine Sakho. Et Bakayoko, bien sûr. Donc c'est sûr que quand Drogba arrive et qu'il met 30 buts dans l'année avec ses matchs fous, le but de la talonnade, je pense que vous la rappelez.
Bien sûr.
La talonnade contre Newcastle. Avec les commentaires, ça passait sur TF1 à l'époque. Hein, c'était les commentaires de TF1. Franchement, ça c'était voilà, et après bon, il y a la tragédie en finale, hein, bien sûr. Bon, en tant que supporter de l'OM, je commençais à avoir... c'était compliqué, quoi. Il y en a eu d'autres, des tristesses, des désillusions en finale.
Le vrai scandale, c'est la double peine en finale.
Ah oui, bien sûr. Merci, Gilbert.
Moi, j'y étais, moi. Parce que moi, j'étais dans les tribunes à tous les matchs. Parce que à l'époque, je commentais encore les matchs. Et j'avais fait toute la campagne de Marseille cette année-là.
Et oui.
T'avais fait Marseille.
C'est le carton rouge.
T'as été puni ou quoi?
Ah non, franchement, je me suis régalé. C'était exceptionnel.
Non, franchement, t'as été puni parce que t'aurais pu faire Monaco, mais le non, numéro 1 bah a fait Monaco, en fait, c'est ça.
Moi, j'ai fait un match de Monaco, j'ai fait le match au Locomotive, Moscou, cette année-là.
Ah ouais.
C'était le 8e de finale, c'est ça?
Cette année 2004.
Je crois qu'il faisait à peu près moins 32, je crois.
Cette année 2004 est peut-être une des dernières très grandes pour le foot français parce qu'on avait eu deux aventures européennes extraordinaires, celle de Monaco et celle de l'OM.
Moi, celle de Marseille, je ne l'ai pas regardée parce qu'il jouait enlevé. Marseille, je ne l'ai pas regardée parce qu'il jouait enlevé de rideau de nous, tu vois, sur cette Coupe d'Europe, mais apparemment, c'était pas mal, ouais.
Je me rappelle aussi de Monaco, je me rappelle les matchs de Monaco contre le Real et tout, alors un peu moins là pour le coup, c'est vrai que j'avais le droit qu'à la première mi-temps et tout comme j'étais petit, mais je me rappelle aussi de la campagne de Monaco. Mais c'était surtout l'OM. D'un côté la super joie et la folie contre Newcastle, et après cette défaite horrible contre Valence. Franchement, ça avait été vraiment un traumatisme, quoi. Il y en a eu d'autres, hein. En tant que supporter de l'OM, j'en ai vécu d'autres.
Quand tu te remémores l'équipe quand même de l'OM qui était en finale cette année-là, c'était quand même parce qu'il y avait Drogba. Bon, enfin, je sais pas si tu te souviens quand même, il y avait Meïté en défense centrale.
Mais horrible l'équipe. Mais attends, mais tu sais qu'en championnat,
je n'osais pas le dire. Il y en a eu des plus belles, les équipes de l'OM, donc comme quoi.
Mais attends, t'as tout à fait raison. On fait une année pourrie en championnat, on finit 7e, je crois. Et tu sais que vous l'avez vu la dernière fois au téléphone, mais on vire Alain Perrin cette année-là, en cours de saison.
Et c'est Anigo qui est sur le banc.
C'est Anigo qui reprend le truc et on finit avec lui.
Attends,
sur le banc.
J'essaie de me souvenir. Barthez.
Oui.
Meïté Mdani en défense centrale.
Oui. Je sais pas si Mdani joue la finale, mais oui.
Habib Bey. C'était pas Ferreira l'autre latéral, Demetrius Ferreira.
Tout à fait.
Au milieu, il y avait Celestini.
Oui, qui est rentré, qui rentre dans la finale, qui rentre, je crois. Ouais, et Meriem, il y avait quand même Meriem.
Kamel Meriem, il y avait Batless.
Oui, il y a Batless aussi.
Et devant, t'as Steve Marley et Drogba. C'est quand même pas l'équipe.
Et Flamini,
c'était pas mal.
Oui.
Marley et Drogba devant, c'est pas mal quand même.
Oui,
il y a pire.
Bon. Ouais, non, c'est, mais c'était une équipe, c'était une année où vraiment on s'est éliminé rapidement de toutes les coupes. Enfin, on fait vraiment une année pourrie. Et puis là, ça, un peu comme en 2018 avec Garcia, en fait. Hein.
Bon, par qui vous êtes éliminé en Coupe de France, je me souviens plus.
Oh, je sais plus. C'est qui, c'est le PSG quand tu dis ça?
oui, c'était le fameux match au stade Vélodrome.
Et c'est un sacré match, ouais. Où Drogba marque d'ailleurs, et ça doit être Paoletta qui marque. Ouais. Ah ouais.
C'est possible. Ouais. En tout cas, Gilbert, juste peux finir sur un truc.
Vas-y, pour
conclure. Sorry qui a marqué.
C'est juste pour vous dire, voilà, j'ai 25 ans, un peu comme l'auditeur de tout à l'heure, je vous écoute vraiment depuis le début. Et genre, vous avez contribué à ma culture foot, mais depuis que je suis tout petit. Donc en fait, vous m'avez endoctriné sur beaucoup de choses. Donc je voulais vous remercier pour ça déjà, pour être toujours là des années depuis toutes ces années, et d'être là surtout dans cette période de confinement où voilà, on n'a pas grand chose à faire. Donc vous écoutez, ça fait du bien, et franchement ça me fait super plaisir d'être avec vous ce soir.
Voilà. Eh ben, écoute Valentin, merci de ta fidélité et à très bientôt.
Merci, j'embrasse tout le monde.
Ciao Valentin.
Salut.
Merci les gars.
Bonne soirée. Alors, j'ai tellement d'appels là, je suis un peu perdu moi. Allez, je vais prendre au hasard. Tiens, David qui est avec nous. Salut David.
Salut Gilbert, salut à tous.
David, bonsoir, David. T'as quel âge?
Moi j'ai 28 ans. Je suis à la limite.
Ah, t'es à la limite. ton tout premier souvenir, c'est quoi?
Mon tout premier souvenir, c'est pas celui que j'allais raconter, c'est forcément, moi je suis né en 91, c'est la Coupe du Monde 98, mais où j'apprenais les drapeaux, je me souviens.
T'étais vraiment petit là. Hein.
Ouais, j'avais 7 ans, mais mon père était allé voir Brésil-Maroc, je me souviens, à Nantes, et il était revenu parce que finalement, il était toujours dans des magouilles, il avait revendu ses places, enfin c'est n'importe quoi, et moi je guettais la télé pour voir si je voyais mon père. En fait après j'avais appris qu'il avait même pas vu le match et tout. Mais bon, j'appelais pas pour raconter ça à la base, hein, mais
alors on t'écoute du coup, vas-y.
En fait moi mon premier souvenir, on va dire, c'est pas mon premier souvenir, mais mon premier souvenir très marquant, j'ai 11 ans, on est en 2002, et moi faut savoir que je suis d'origine portugaise en fait. Et je viens d'un petit village dans les collines, presque les montagnes, dans le centre du pays, d'une quarantaine d'habitants. Et dans ce village-là, nous, il n'y avait pas trop la télé en fait. On avait 3-4 chaînes, mais on n'avait pas la télé câblée. Et à 10 km de ce village-là, on avait des copains qui des fois venaient nous voir et tout, pour la journée, pour faire des 400 coups, quoi. Et ils nous disaient, les gars, il y a un joueur à Sporting, il est trop fort, il s'appelle Ronaldo, comme Ronaldo le Brésilien. Il est super fort et tout, franchement faut que vous veniez le voir et tout, et parce que là-bas dans leur village ils avaient un bar qui avait la télé câblée, c'était le grand luxe quoi. Et en fait on a été le voir une fois jouer, et mes copains et moi dans mon village on est tellement tombés amoureux qu'après toutes les semaines on faisait 10 km à pied, 10 km retour, aller-retour, ça faisait 20 km à travers champs, à pied. Nos grand-mères à nous tuer à chaque fois parce qu'elles s'inquiétaient à fond. Et en fait, juste pour aller voir Ronaldo, parce qu'il avait une espèce d'ardeur, d'effervescence dans les pieds. On était tombés fous amoureux de lui. Et en fait, c'est bizarre, mais à l'époque, je ne sais pas si les jeunes se souviennent, le fait qu'il s'appelle Ronaldo comme Ronaldo, ça lui conférait aussi une espèce d'aura un peu bizarre.
Et oui.
Et en fait.
Ouais, mais c'était plus bizarre qu'autre chose, parce qu'on se demandait si c'était pour de vrai ou pas. Donc on l'appelait Cristiano, on n'osait pas trop dire Ronaldo.
Ça faisait partie du personnage dès le début.
Et d'ailleurs, c'est de là qu'est venue cette phrase que, après coup, aujourd'hui, des années plus tard, je trouve stupide, c'est qu'on continue à dire Ronaldo le vrai.
Ça m'énerve quand Cazard dit ça.
Non, mais il faut arrêter de dire ça parce qu'en fait, parce qu'au début, ça vient en fait du début. Quand t'as eu un mec aussi fort que Ronaldo le Brésilien qui portait ce nom-là, forcément c'était un petit peu étonnant quoi.
Et le pire c'est qu'on faisait ça toutes les semaines et tout, on faisait les 20 km à pied. Alors en plus des fois parce qu'ils jouaient pas tous les matchs, donc des fois on se déplaçait pour rien parce que des fois on arrivait parce qu'on n'avait pas les compos nous avant en fait. Donc des fois ils jouaient pas, donc on avait fait le déplacement pour rien entre guillemets, parce que moi à la base je suis même pas supporter de Sporting. Et surtout des fois comme c'est une terre de chasse dans ma région, et ben on se cachait dans les coffres des chasseurs sans qu'ils le sachent dans les jeeps en fait. Dans les coffres, et une fois je me suis retrouvé avec mon cousin et il y avait des têtes empaillées de cerfs et de sangliers dans le coffre avec nous. juste pour aller voir Ronaldo en fait, et ça a créé une espèce de lien comme ça, on l'a suivi, c'était en 2002, je me souviens, en 2002-2003, j'avais 11 ans quoi, et ça a créé une espèce de lien indéfectible, et il y a plein de Portugais comme ça qui ont des anecdotes sur le début de Ronaldo comme ça, qui était virevoltant, tout frêle, et très vite c'est un peu devenu l'enfant du pays, quoi. Et l'autre deuxième souvenir très très fort, l'équipe vraiment que je supporte, moi, c'est le Portugal, et il se trouve que l'Euro 2000, et ça c'est très intéressant, vis-à-vis des perceptions différentes que peuvent avoir deux pays d'un même match. Et les Français
tous les binationaux connaissent ça.
Ouais, exactement. Et en fait, les Français sous-estiment énormément le traumatisme qu'a constitué pour les Portugais la demi-finale à l'Euro 2000, France-Portugal. C'est-à-dire que moi...
Il n'y avait pas main, d'Abel Xavier, t'es d'accord? Il n'y avait pas main.
En fait, aujourd'hui, je le reconnais volontiers qu'il y avait main. Mais en fait, Daniel, tu ne peux pas si bien dire, c'est que pour beaucoup de Portugais, ce soir-là, en tout cas, même d'ailleurs encore aujourd'hui...
Il y a eu un complot, Ouais.
En fait, moi, c'est tout bête, hein. Ça peut peut-être paraître solennel et pompeux ce que je vais dire, mais je vous assure, j'avais 9 ans. Et en fait, j'ai découvert quelque chose ce soir-là. J'ai découvert, c'est la première fois que je ressentais un sentiment d'injustice aussi fort.
D'injustice.
C'était un traumatisme très, très longtemps pour moi, en fait. Et ça a été une espèce de série 82 pour les Portugais pendant longtemps, en fait, ce truc.
Et même dans ma famille,
longtemps, il y a eu la... C'est horrible à dire, alors qu'il y a des gens qui vivent en France, mais il y a beaucoup de binationaux, il faut dire la vérité, c'est comme ça, ont eu la haine des Français à cause de ça pendant longtemps, à cause de la main d'Abel Xavier, en fait.
C'est ce que peut faire le foot.
C'est qu'Abel Xavier, encore aujourd'hui, il dit qu'il n'y avait pas main, celui-là.
Non, mais après, c'est la mauvaise foi. Bon, dans le foot...
C'est comme Schumacher qui dit qu'il n'y avait pas faute.
Et l'autre jour, vous parliez de la rareté des matchs. Il se trouve que quand t'es d'origine portugaise, que toute ta famille supporte le Portugal, il faut savoir qu'à l'époque, ton équipe, tu la vois que tous les deux ans, à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et ce qui était terrible, moi, c'est que c'est la première fois que je voyais l'équipe du Portugal avec le maillot grenat, super beau, ils avaient des cheveux longs, etc. et tout. Et cette équipe dont j'étais tombé amoureux en phase de poule contre l'Angleterre, la Roumanie, ensuite l'Allemagne, ensuite la Turquie, et bien en fait, au moment où elle se fait éliminer de façon brutale comme ça, et bien en fait, c'est comme un amour d'été qui te dit c'est brutal, c'est injuste, on se revoit que dans deux ans maintenant, en fait. Et c'est horrible parce que mon équipe, elle me quittait comme ça, en fait. Elle me quittait comme ça. Et mes héros du mois de juin, ils me quittaient. Et je me disais, en fait, ça y est. Je me souviens de m'être retourné vers mon père et je lui avais dit, en fait, papa, là, pendant deux ans, je les vois plus, là, Victor Bayard, Figo et tout. Il me disait, non, mon fils, c'est comme ça, quoi.
C'était pas Nuno Gomes, ton joueur préféré, avec ses cheveux longs et tout. Il était beau, Nuno Gomes. Évidemment, il était beau.
En plus, il met un de ses buts contre la France.
Bien sûr.
Surtout qu'en 2002, le Portugal, c'est la cata intégrale. Le match sous la pluie, là, en Corée du Sud.
C'est terrible parce qu'en fait, les matchs éliminatoires, on les voyait pas, nous. Enfin, quand t'es portugais, tu vis en France, tu ne vois pas les matchs éliminatoires.
Maintenant, tout le monde les regarde. Ils passent les matchs du Portugal sur les chaînes françaises.
Oui, mais à l'époque, on les voyait pas. Donc, en fait, à chaque fois, c'était brutal. Et t'avais une espèce de pression qui montait pendant deux ans. Et je me souviens, au lycée, quand j'avais lu, ça peut paraître bête, le parallèle, quand j'avais vu Voyage au bout de la nuit pour la première fois de Céline, il y avait une phrase qui m'avait marqué. Et Céline raconte dans les premières pages, il écrit, on est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Et bien moi, France-Portugal en 2000, ça m'a dépucelé de l'horreur. C'est-à-dire que vraiment, quand t'es petit, vraiment, tu vis les choses, forcément, les émotions sont décuplées. Et je vous assure que ça a été un traumatisme pendant longtemps. Bon, après, on a eu la Grèce en 2004.
T'as été dépucelé de la volupté et là, ça a été mieux tout de suite.
Oui, forcément.
Un peu plus tard, quand même.
La volupté, c'est Ronaldo, en votre côté. Mais enfin, voilà, quoi.
Merci, donc,
tu connais la légende. Tu connais la légende de pourquoi Ronaldo s'appelle Ronaldo?
C'est Ronald Reagan, bien sûr, son père était fan.
Mais en fait, alors, essaye de m'expliquer pourquoi il y a autant, je sais pas s'il y en a autant, mais de Portugais qui sont fans des présidents américains. Parce que Daniel Kennedy, le joueur qui est passé au PSG, son père était fan de JFK. Et il l'avait appelé Kennedy pour ça aussi. Mais il avait oublié N à l'état civil. Il avait qu'un seul N.
Il avait oublié ses pieds aussi quand il est arrivé.
Je ne sais pas si c'est une explication, mais alors le Portugal a évidemment une image de pays méditerranéen. Mais il faut savoir que c'est un pays qui a été très tourné, en fait, de tout temps, a été très tourné vers les anglo-saxons, en fait. Et l'alliance historique Angleterre-Portugal, c'est quelque chose qui dure depuis des siècles. Et il y a une espèce de fond culturel comme ça qui peut-être peut expliquer cet attrait des Portugais.
Ils sont fans des présidents américains.
Ouais, voilà, quoi.
C'est marrant. C'est pour Ronald Reagan,
savais. Donc vous aurez bientôt un Trump au PSG d'ici une quinzaine d'années, les gars.
Un joueur qui va s'appeler Donald.
Donald Goumesh, il va arriver.
Donald.
David, c'était sympa. Merci en tout cas. C'était super.
Merci à vous les gars. Salut. Et comme tous les autres, vous avez contribué à façonner ma culture foot et enfin voilà, vous êtes extraordinaire, ne changez pas. J'étais venu vous voir ça quand vous étiez passé et puis vraiment c'est voilà, vous êtes formidable, ne changez rien quoi. Voilà.
Bah dis-moi, et si t'es à Reims, t'aurais pu prendre la caisse des chasseurs pour aller voir Jérôme Rotel à 3. Hein, tu l'as pas fait.
Non mais
tu l'as pas fait.
Mais Jérôme a laissé un très bon souvenir à Troyes. Ce qui est beau dans la carrière de Jérôme, c'est qu'il a laissé une trace dans le cœur des supporters de chaque club dans lequel il est passé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, en fait.
Et merci. Et ben, c'est la vérité.
Salut,
voilà,
David.
On arrêtera là-dessus. C'était le meilleur auditeur.
Fin de l'émission. Voilà.
Dans quelques instants, on revient. On aura Charles, qui est supporter de Liverpool, tiens. Et puis, Alban également, qui sera là. Pas mal de témoignages ce soir. Énormément de
témoignages. Supporter d'Alban serait, non?
Ah, peut-être. On lui demandera. Ou peut-être ses parents. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit avec Jérôme Rotten, Pierre Ducrot, Daniel Riolo, les moins de 30 ans ce soir dans l'After pour leurs souvenirs de foot, bien sûr. Si on fait les moins de 30 ans, faudra qu'on fasse les plus de 50, hein, les gars. Ah oui.
Ouais, ouais.
Coupe du monde 74.
Non, on avait dit d'ailleurs qu'on ferait les tranches d'âge, les 20-30, les 30-40, les 40-50 et au-dessus.
Ouais, c'est pas mal ça.
Bon, bah on le fera.
Et il faudrait noter d'ailleurs le nombre de fois où ont été cités certains matchs qui sont des matchs importants.
Moi, je remarque quand même un truc depuis le début, c'est que quelle que soit l'époque, c'est l'émotion, quoi, finalement. Nous, on a nos émotions à nous, 82, etc. Qu'elle soit de 2006 ou de 82, finalement, c'est aussi important pour chacun, quoi. C'est ça qui revient à chaque fois. Alban est là. Salut, Alban.
Oui, bonsoir à tous.
Alban, t'as quel âge?
Oui, j'ai 26 ans, donc je suis dans la moyenne d'âge des anciens auditeurs.
Très bien, excellent.
Et donc tes parents étaient fans d'Alban Seret, c'est pour ça qu'ils t'ont appelé.
Mais non, mais faut pas dire ça, Daniel, t'es un fou, toi.
Non, mais c'est déjà étonnant que tu saches qui c'est.
Ben non, mais bon, écoute, j'ai 26 ans, donc on est passé par là aussi.
Alors, Alban, ton premier souvenir, c'est quoi?
Alors, mon tout premier au stade comme Achille, c'était un Nantes-Lens à la Beaugeoire, avec Veyrua qui marque, je crois, un 2-0. Mais le premier vrai gros souvenir qui m'a marqué, c'est Istanbul 2005.
Ah, et la finale, oui, d'accord.
Ah, mais, et vraiment, j'avais 12 ans. Et en fait, ce qui était, je sais pas si vous vous souvenez, à cette époque-là, les finales de Champions League, elles étaient le mercredi soir.
Ouais.
Et donc, vu que tu avais collège le lendemain, il fallait batailler avec maman et papa pour rester. Et donc, j'avais bataillé avec ma mère pour mater la première mi-temps. Et donc moi je commençais un peu à être fan de Liverpool, voilà.
Bah à la mi-temps tout était justifié pour des parents de dire bon écoute c'est fini, tu vas au lit maintenant.
Exactement. pour transposer ça aujourd'hui là, faudrait mettre ce petit jingle de Rocco, ramenez-moi les adresses. Et je me revois en fait mon père qui revient du travail pile à la mi-temps et il me fait alors c'est quoi le score. Papa c'est mort, Maldini il a même marqué sur un coup de pied arrêté, Crespo il a mis le doublé sur une passe majoriste de caca. Et il me dit, il faut jamais sous-estimer les clubs anglais. Et je lui dis, moi, papa, c'est pas possible.
Il a vraiment dit ça à 3-0?
Franchement, alors là, Daniel, je te promets. Et je lui dis, papa, franchement, t'es Marseillais, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est.
Ouais, mais à l'inverse, il aurait pu dire, ouh, les Italiens, on leur remonte pas 3 buts. Il aurait pu dire ça aussi.
En plus,
ouais. Ouais, cliché pour cliché.
Exactement.
Il a choisi le bon.
Et ce qui me marque, en fait, c'est que, donc, mon père revient du taf, on se fait tout devant la télé, et là, le but de Gerrard, on dit ok, d'accord, c'est stylé. Tout le stade qui commence, enfin le stade, les fans de Liverpool qui commencent à entonner You Will Never Walk Alone, l'ambiance de fou, Smith-Rowe, Alonso qui marque son penalty, et là tu te dis waouh, putain, il y a 3-3. On va jusqu'en prolongation. Je sais pas si vous vous souvenez, à moi, il y a Shevchenko qui a une occasion de fou de
Dudek. C'est pas qu'on s'en souvient. Est-ce que tu sais que cette occasion, cette frappe de Shevchenko que Dudek dévie, Shevchenko est marqué à vie par cet arrêt? Et qui dit qu'il ne comprend pas comment Dudek a pu sortir cette balle, et que si tu regardes le visage de Shevchenko après cette action, tu retrouves le visage au moment où il va pour tirer le penalty dans la séance. Il n'est pas remis de ça et il rate le péno. Et la tête qu'a Shevchenko, il traîne cette occasion qui est monumentale. Dudek, c'est là. Je sais pas comment il fait pour sortir cette balle. D'ailleurs, je sais même pas s'il fait réellement exprès. Et en fait, il est traumatisé par cet arrêt, Shevchenko. Il en parle. J'ai entendu dans des interviews parler de ça. Il dit que c'est surréaliste, que c'est impossible d'avoir raté une occasion pareille, que Dudek peut pas sortir ce ballon. Et après, il arrive à la séance de péno et il est encore totalement traumatisé. Il rate le péno.
Exactement. Et
t'as regardé le match jusqu'au bout finalement?
Ouais, parce que mon père est arrivé, il a réussi à faire le forcing avec mon maman, Et donc, du coup, c'est passé. Mais je me revois sauter sur le canapé quand Cissé, il met son penalty. Et quand Pirlo et Shevchenko se loupent sur les penalties, et j'étais comme un fou. Et ouais, ça m'a vraiment marqué. Et le deuxième souvenir qui m'a vraiment marqué, en plus, c'est relié à vous, c'était en 2009. Et c'est le célèbre It's a fucking disgrace. It's a fucking disgrace. Et en fait, j'étais pas forcément pour Chelsea ou pour. Enfin, non, je détestais Chelsea parce que j'étais fan de Liverpool. Et ben, je me disais, ce match, il est incroyable, en fait. Et le, je sais pas si vous souvenez de la frappe d'essai qu'il met pour
c'est
le.
C'était un sacré match, ouais.
Ouais. Et en fait, à la mi-temps, j'étais tellement surexcité. Je fais, putain, il faut que j'entende du foot, il faut que j'entende parler de foot, quoi. Donc, à la mi-temps, je vais dans ma chambre, je prends mon gros poste radio, tout noir. Et là, je cherche un truc pour entendre du foot. Et là, je tombe sur RMC. Et j'entends Daniel qui explique justement que il faut trouver un point d'ancrage sur l'attaque parce que même si c'était Eto'o à l'époque, ils n'arrivaient pas à trouver les occasions Barcelone. Et je me revois mais sauter mais ouais j'étais comme un ouf quand Iniesta marque sa frappe là où il reste son t-shirt.
Ah bah oui. Oh là là.
Et puis quand Balak gueule comme du poisson pourri sur l'arbitre, mais même si vous avez fait un after sur justement les erreurs d'arbitrage, c'était vraiment génial. Et ouais c'était mais juste incroyable quoi. Ces deux souvenirs et c'était mais. Il reste à vie, quoi. Et
donc, Ligue des Champions, quoi. Les grands matchs de Ligue des Champions pour toi, c'est ça qui t'a marqué, quoi.
Et exactement. Après, France 2006, forcément, comme les autres auditeurs. Mais c'est vrai que c'est. Enfin, surtout celui de Liverpool, il m'a marqué cet esprit de combativité. C'était.
Et pas France 2010, ça t'a pas marqué, France 2010?
Bah non, c'était.
Et t'as quel âge? T'as quel âge en 2010? T'as quel âge en 2010?
En 2010, j'ai 17 ans parce que je passe le bac de français.
Ah, t'as dit, t'es grand quand même déjà, t'es grand quand même. Ouais, et tu le vis comme une humiliation au contraire de 4 ans avant, tu vis ça pas bien. Bah, t'es encore en adolescent, t'es jeune adulte, ouais. Quoi.
Non, mais si tu te rends compte, en fait, tu passes vraiment pour la risée du monde, quoi, au niveau du foot, quoi. Tu dis, mais putain, les gars, fallait au moins descendre du bus, quoi. Enfin, ça paraît tellement évident. Mais bon, écoute, c'est comme ça, hein. Mais ouais. J'avais juste une petite chose, justement, Daniel, sur ce que tu disais. Je pense que. Chaque génération, comme tu as dit tout à l'heure, va avoir son match de référence. Tout à l'heure, le petit Achille, là, le Canet, je trouve que son France-Argentine, il est incroyable. Nous, c'était le France-Espagne, France-Brésil de 2006, qui était vraiment incroyable aussi. Et voilà. Et moi, je suis coach de basket sur la région nantaise. D'ailleurs, je suis petite dédicace à Max. On a parlé beaucoup de basket et de Nantes au standard. Et pareil, au basket, c'est qu'on a aussi cette référence. Moi, j'ai un match pareil qui m'a fait. Totalement vrillé, c'était en 2007, LeBron James avec Cleveland. Et ouais, je pense que chaque génération va avoir son CV 82, quoi. En bon ou en mal, d'ailleurs.
Bah oui.
Bah écoute,
oui,
Alban, vu que tu t'appelles Alban et que tu as parlé de Rocco, c'est cadeau.
Oh oui, merci.
Envoyez-moi les adresses.
Ouais. Gilbert ?
Oui ?
Juste avant de partir, est-ce que je peux faire juste. J'ai deux petites choses à rajouter.
Vas-y.
Ok, j'en ai une. Vous parlez souvent de la formation du jeune footballeur. Et à chaque fois que je vous écoute, moi ça m'interpelle parce que justement je suis formateur au basket et je pense que avec le temps là vous avez pas mal de thèmes à développer. Si vous pouvez développer ce thème-là avec une transversalité sur les autres sports, franchement ce serait vraiment top. En plus comme ça je pourrais passer à l'antenne donc ce serait plutôt sympa. Et la dernière chose, je voudrais juste faire une petite dédicace à tout mon club de Saint-Médard de Doulon à Nantes, au BPJEPS. À tous mes potes, toute ma famille, ma sœur, mon père, mon papy qui va pas très bien, et à ma mère et ma mamie qui m'écoutent de là où elles sont. Et les gars, merci pour tout ce que vous faites, franchement, c'est un régal. Moi, je suis dans mon 25 mètres carrés à Nantes et je kiffe vous écouter. Merci beaucoup, les gars.
On t'embrasse.
Merci beaucoup. Ouais. Alors, je reçois plein de messages sur Direct Studio. Karim qui me dit, moi, j'ai 39 ans, je sers à rien ou quoi? Karim.
Après, on a dit qu'on
va. Ouais, pas tout de suite.
Parce que lui, 30-40.
Il voulait nous parler de Toto Schillaci, en l'occurrence, mais c'est un peu plus vieux. Donc, Coupe du Monde 90.
Le vrai ou celui qui a joué avec moi à Monaco?
Non, le vrai.
Ah ouais, bon ça va.
Le vrai Toto Schillaci.
Qui voulait parler de, j'ai pas entendu.
Ah, Karim qui a 39 ans, il se sentait exclu là ce soir, donc il voulait nous parler de Toto Schillaci 90. Donc ce sera une prochaine fois.
Ah non, 39 ans, ça colle pas.
Non, ça colle pas. Non. Tiens, j'ai Nathan qui a 14 ans là qui nous écrit. Je suis supporter de l'OM. Moi mon match c'est OM OGC Nice. Malheureusement, Nice avait gagné 2-1. Voilà, c'était son premier match. Ouais,
mais son match, c'est le premier qu'il a vu, c'est pas la même chose. Nous, on a dit la première, la plus grosse émotion.
La plus grosse émotion, c'est France-Albanie, où il était au stade pour l'ouverture de l'Euro.
Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, oui.
Voilà.
Bon, c'est encore des petites émotions. Il faut qu'il grandisse. Hein. 14 ans, il n'a pas vu grand-chose encore. Hein.
Ah bah, parce tout à l'heure, Alexis le cadet, tout à l'heure, c'était pas mal. Attends, quand,
ouais, 13 ans, ouais.
Quand c'est moi qui raconte pour les autres, il y a moins d'émotions, Daniel. C'est normal. Tu vois, Alexis, son camp Dijon, il nous l'aurait écrit sur Direct Studio.
Excuse-moi de lui souhaiter mieux qu'un France-Albanie.
Oui, bah.
Je lui souhaite mieux qu'un France-Albanie. Comme moi, tu m'as demandé. Un de mes premiers matchs où je pars en bus avec tous les potes.
Non, c'était France-Roumanie, Dimitri Payet.
Excuse-moi, Gilbert, tu m'as demandé tout à l'heure. Bon, c'est celui-là dont je me souviens, même s'il y avait dû y en avoir avant, là. Mais quand on part avec tout le club de foot et tout, le France-URSS dans un Parc des Princes qui était. Il caillait, comme c'est pas permis, le parc était même pas plein, et ça a fait un partout. Excuse-moi, ça a beau être un de mes premiers au parc, c'était pourri.
Oui, c'était
le
pourri,
premier ouais. Ne veut pas dire que c'est formidable, quoi. C'était pourri.
Comme toutes les premières.
Alors que émotion, c'est autre chose. Voilà.
Bon, très bien. Tiens, moi j'avais vu un France RFA à Strasbourg avec Hans-Peter Briegel sans protège tibia avec des mollets, des jambons de Bayonne. Et j'étais juste derrière la grille, je n'en regardais que les mollets de Briegel. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas humain.
Parce qu'il était décathlonien de formation.
Hans-Peter Briegel, la bestiasse. Ouais,
c'est vrai. Il c'est était décathlonien de formation.
Plus. Non, mais en plus, vu qu'il n'y avait pas, tu pouvais jouer sans protège, chaussettes PC, les mecs qui avaient des gros mollets, c'est sûr que ça se voyait direct.
Ah ouais, bah Susic, pareil. Ah,
lui, il risquait rien avec ses gros mollets, tu pouvais lui tacler, il sentait rien.
Qui, Briegel?
Ah bah. Ouais, il sentait rien.
Ah non, mais Briegel, c'était.
Il était en acier.
Bah, c'est comme Roubaix, il y avait une espèce de truc qui se dégageait de ces mecs-là, tu dis, mais c'est pas. C'est des mutants, quoi.
Rien que le nom, déjà, tu sais que ça va faire mal.
Bon, voilà.
Roubaix. Surtout le prénom, Ors.
Ouais, Ors Roubaix. Ouais, là, tu sais que c'est un mec qui va t'enfoncer.
Bon, voilà pour les moins de 30 ans, messieurs, c'était très sympa. Alors, on refera pour les plus vieux, hein, plus tard, les plus de 30 ans, les plus de 50. Voilà, on aura le temps dans les semaines qui viennent, bien sûr.
Est-ce que vous avez déjà eu peur, Jérôme et Pierre, d'un mec sur le terrain, tu vois, quand on parle de Horst Rubesch? Est-ce que vous avez un mec sur le terrain, tu dis, lui, il a l'air complètement fêlé, il peut être dangereux?
Non.
Peut-être pas trop à vos époques, c'est peut-être plus dans les 70 et tout, où t'avais les arbitres qui parfois regardaient pas et tu pouvais te prendre un sale coup. Mais vous, non, vous
à notre époque, t'avais encore quand même quelques bad boys sur le terrain.
Il y a quand même un truc, les gars.
C'était encore une époque où tu pouvais mettre des sales coups.
C'est qui le mec le plus salopard que t'as croisé, la plus grosse garce que t'as croisé sur un terrain, Pierre?
Ah, moi, je pense que c'est celui de Manchester, là, à l'époque, quand je joue à Derby pendant un an, et qu'en face, il y a
Roy Keane.
Roy Keane, bien sûr.
Ah, tu l'as croisé plus d'une fois?
Non, je l'ai croisé deux fois quoi, cette année-là, mais
deux fois, ouais,
bon, moi en l'occurrence là sur le coup, j'ai pas eu de, je pense qu'ils s'en fichaient du petit Frenchie en face.
Il y a un truc quand même qu'il faut qu'il se souvienne.
Ça devait être lui le plus bad boy, mais moi j'ai pas eu de problème.
T'es croisé quoi.
Ouais, voilà. Puis après c'est non, enfin sur un terrain de foot, tu peux pas avoir peur quand tu rentres sur le terrain de foot. C'est pas
possible. Non, pas peur.
Il y a des mecs qui sont impressionnants, mais c'est vrai que c'est plus.
Après, dans ta position manger d'attaquant, etc., tu peux peut-être plus te méfier quand tu reçois des ballons d'eau au but, etc., machin. Que
toi,
moi,
y a
dans
un
ma
mec
position
que t'aimais
à l'époque,
pas croisé, Jérôme, tu disais, lui me fait chier, j'ai pas du tout envie de jouer contre lui.
Franchement, non, je l'aurais tous mis là, un petit peu la misère.
Oh, arrête, allez.
Non, mais ça va. Non, mais je
présente. Il y en a quand tu.
Non. Le plus.
Hey, Jérôme, il précise qu'il plaisante quand même au cas où on pense vraiment qu'il est.
Ouais. Non, mais déjà, ouais, parce que ouais, je préfère maintenant le dire parce que après, je vais me prendre une déferlante sur Twitter. Donc.
Quand on était à Dortmund, Habib disait que tu n'osais jamais venir le dribbler.
Moi, après. Habib, tu regardes les vidéos et tu regardes les matchs qui se passaient. Hein. On se souvient tous de la finale de la Coupe de France.
Ah non, moi je sais pas. C'est quand on était à Dortmund ensemble qu'il a dit ça.
Oui, mais il a dû oublier certains matchs. Mais c'est pas grave. Je parle pas d'Habib, mais un mec qui était un vrai casse-couille sur le terrain et une vraie petite
garce.
C'est Van Bommel.
Ah oui, je suis d'accord.
Ah bah oui,
Van Bommel,
lui c'était
sacré.
La classe. Lui, il le faisait vraiment avec classe.
Qu'est-ce qui parle,
les coups qu'il mettait. Oh là là. Et puis dès que tu lui en mettais un petit, ça y est, ils sont.
Ouais, c'était une pleureuse. C'est pour ça que moi, Daniel, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le mot classe. Au contraire, c'était pas du tout un mec qui en avait.
J'étais ironique, mais n'empêche, il était tellement malin qu'il était très utile à son équipe.
Pour conclure, constatons quand même que chez les moins de 30 ans, il y a beaucoup de souvenirs de matchs européens, alors que les plus de 30 et les plus de 40, c'est que les matchs soit équipe de France, soit club français. Hein. C'est pas là. C'est de la génération des moins de 30. Ils ont aussi été biberonnés Canal, la Première Ligue, le foot espagnol, les Real Barça et tout. Chose que nous, quand on était gosses, c'était un peu plus flou quand même. Dans quelques instants, le quiz.
Je pense que si c'était des Marseillais de notre génération, t'inquiète pas qu'ils vont te citer des matchs de Coupe d'Europe. Hein.
Oui, mais Coupe d'Europe avec un club français à chaque fois.
Ah bah oui. Ah tu veux dire, d'accord, ouais. Oui, j'ai compris, évidemment, oui, bien sûr.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Rantaine, avec Pierre Dorian. Pierre Dorian. En fait, il vient de m'envoyer un message. C'est Pierre Ducrot. Bien sûr, Daniel Riolo. Plus Julien Cazard qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Eh bien, bonsoir à tous.
Ton premier souvenir, mon petit Julien, c'était quoi?
Ah ben moi, c'est simple. Moi, mon premier match, c'est France RFA. J'ai chialé comme une merde. Et en fait, mes parents, moi, détestaient le foot. Enfin, s'en foutaient complètement, toute ma famille d'ailleurs.
C'est pas le derby de la Garonne?
Pauvre con. Jean-Marc
Bordeaux, merde.
Si, c'était super déboulé de Jean-Marc Ferrage qui a pris la balle entre les jambes d'Alain Giresse. Pauvre con. Alors écoute, non, c'était France RFA. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que moi, mes parents n'aimaient pas le foot, puis ils sont partis dans la cuisine à 3-1. Bon, et puis ils sont revenus, puis je pleurais. Ils disaient déjà qu'est-ce que je foutais à cette heure-ci. Encore, j'avais 8 ans, debout. Et en fait, ils se disent, mais pourquoi il pleure ce con? Parce que je suis triste. Je dis, mais pourquoi t'es triste? C'est que du foot. La pire phrase du monde qu'on peut te dire, c'est mais c'est que du foot. Faut vraiment être con pour dire une phrase pareille.
C'est que du foot après ce genre de match là. Oui, c'est vrai que c'est insupportable à entendre.
Ah ouais, mais mes parents aussi, tu vois, à un moment donné, voilà. Oui. Donc j'aurais plus jamais parlé depuis. Depuis mes 8 ans. J'aurais plus jamais parlé à mes parents. Des gens qui ne méritent pas mieux, quoi, d'avoir dit cette phrase terrible. Voilà. Voilà, donc c'est pas pour ça que tu m'as fait venir, Gilbert. C'est pas juste pour me rappeler que mes parents sont des cons qui connaissaient rien au foot.
Je savais même pas d'ailleurs. C'est pour le quiz jingle.
Oui.
Oui. Vous êtes prêts? Attention, je commence par Daniel.
Ah, tout de suite là, comme ça?
Ouais, bah oui, non, de la semaine prochaine.
Oui. C'est vrai que dit comme ça, c'est assez violent. Alors on va commencer.
C'était quoi ce jeu où on commençait par quelqu'un?
Tu sais, parce que les enchères, le kiki crack, tu sais, ouais. On commence par quelqu'un.
Attention, voilà, Raphaël est là. Raphaël, bonsoir.
Bonjour. Salut Raphaël. Les gars, salut à tous.
Raphaël, t'as le choix entre l'équipe Rotten, l'équipe Ducrot, l'équipe Riolo, l'équipe Bribois.
L'équipe Bribois, direct.
Excellent, Raphaël.
Ouais. Bizarre ce choix.
C'est même ton choix de la gagne.
Ouais, c'est le choix de la facilité.
La facilité, ouais.
C'est le choix de la race,
Et en même temps.
Pierrot, bon match.
Premier à la race, Gilbert. Et en même temps,
les deux dernières victoires, là, on n'est pas.
Bribois 47%, Riolo 44%, Rotten 29%.
44%,
on va se mettre à deux avec Jérôme.
Ouais, on va se mettre à deux peut-être.
Où est-ce que t'es?
Donc moi, en fait, je descends.
Ouais, 0-0, je cherche pas.
Non, non, t'es monté là.
Bah non, j'ai jamais gagné.
Comment il monte?
Du gros 0%.
Bah oui, j'ai joué 5 fois avec vous, j'ai pas gagné une fois.
Attendez, j'ai deux Suze, une bière et un Monaco, c'est pour qui? Non, parce qu'on peut continuer pendant 2 heures à discuter comme ça.
On t'écoute, vas-y.
On va enchaîner, je pense, tout de suite par la question qui met tout le monde d'accord, c'est le Kikapadi. Alors, on va partir sur un petit Kikapadi. Kikapadi. J'ai demandé à mon nouveau sponsor Gillette de me payer un disque de musique classique, car c'est mes préférés. Benzema. Avec le jazz. Benzema, Daniel. Sûr. La musique classique et le jazz, c'est mes musiques préférées. Ça doit être apaisant, comme la conduite que j'ai en voiture quand je roule dans ma Clio électrique. C'est important de rouler sans carbone. C'est mon côté modeste, j'y peux rien, même si il y a deux choses que j'aime dans la vie, c'est les sélectionneurs avec des grosses gencives et les grands attaquants qui ont la tête de Benoît Costil. Et c'est bien Karim Benzema. Bien joué, Daniel. Un point pour Daniel. On va tout de suite enchaîner par le jeu préféré de Daniel Riolo, le quoi qui kiff kiff. Est-ce que vous êtes prêts pour le quoi qui kiff kiff? Attention, quoi qui kiff kiff. Tu es prêt, Daniel? J'aime bien te demander parce que des fois je m'inquiète pour toi.
S'il le faut.
Alors, quoi qui kiff kiff, vous êtes prêts? Yann Koller, Depréville, Mamadou Sakho, Rio Ferdinand, John Terry.
Ils ont qualifié leur sélection nationale pour une grande compétition.
Jamais de la vie, pas du tout. Koller, Depréville, Sakho, Rio Ferdinand, John Terry. Oui, c'est sûr que Depréville, s'il a qualifié son équipe, j'aimerais bien savoir quoi. Ouais. Une grande compétition, la Terre Toto, ça n'existe plus. Je vais vous donner un indice. Yann Koller, Depréville, Sakho, Rio Ferdinand et John Terry, ils ont fait un truc particulier, c'est qu'ils ont fait un truc qui dérangerait.
Non.
Non. qui n'aurait pas dérangé notre ami Thomas Tuchel par exemple, qui adore faire ce genre de choses. Mais là c'est un niveau au-dessus.
Les câlins.
Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il fait avec ses joueurs? Même ça énerve tout le monde en général. Non, il prend un joueur et il le met à un autre poste, par exemple.
Latéral, ils changent de poste. Latéral. C'est des mecs qui ont changé de poste.
Ils ont joué.
Alors oui,
ils ont joué. Ils ont été formés.
Ils ont fait un truc assez exceptionnel. Au moins une fois dans leur vie, ça arrive à
gardien.
Un joueur.
Ils ont été gardiens.
Pierre Ducrot, ils ont été gardiens pendant un match. Ils ont remplacé le gardien. Bravo Pierre Ducrot.
Que nous, Pierre.
Pierre était devant Pierre.
Raphaël.
Oui, parce que Pierre Dorian n'est pas là vraiment. Hein. C'est pas.
Il non, non, pas vraiment.
Attention, quoi qu'il kiffe. Vujovic, Boban, Ibrahimovic.
Ils ont un frère jumeau. Alors,
ils ont joué Zidane. Ils sont originaires d'un pays, mais ils jouent pour une autre sélection.
Non. Zidane, Ibrahimovic, non. Boban, Vujovic.
Ils ont mis un coup de boule.
Vujovic a mis un coup de boule. C'est marrant ça. Ouais. Boban, je crois qu'il a mis un coup de boule, t'as raison. Mais Ibrahimovic, non. Alors c'est Vujovic, Boban, Ibrahimovic et Zidane. Peut-être qu'il faut aller chercher du côté du prénom.
Ah, ça commence par un Z.
Qu'un Z, bien sûr.
Un Z.
Alors il y a un Z. Je prends, ça commence. Il y a un Z dans le prénom. Zvonimir, Zlatan, Zlatko et Zinedine. Ça commence par un Z, absolument.
Bravo Raphaël.
Bravo.
Allez, pour nous,
oui,
bravo,
ça commence par un Z. Attention, quoi qu'il kiffe. La Roumanie, la France, l'Écosse, la Yougoslavie.
L'Écosse.
L'Écosse, McFadden, Michael Lebrun, n'ont rien à voir. Roumanie, France, Écosse, Yougoslavie. C'est pas glorieux, hein. C'est pas très glorieux.
Ils sont pas allés en Coupe du Monde après avoir brillé dans la compète d'avant.
Alors, ça serait génial, mais alors, quand l'Écosse a brillé dans une compète.
L'Écosse,
faut me la retrouver, celle-là. Non, alors je vais vous dire mieux, c'est pas glorieux, mais ça correspond
plutôt
à. Ils ont
passé plus de 10. Ils
sont restés très longtemps sans aller en Coupe du Monde.
Ah, c'est les clubs.
Non, c'est pas les équipes nationales, c'est au niveau des clubs.
Ah, bah ils ont plus
de classement UEFA par pays. Une seule Coupe d'Europe de gagner.
Alors je bloque Gilbert, ils ont une seule Coupe d'Europe.
Une seule Ligue des Champions ou Coupe d'Europe des clubs champions.
Ils ont une seule Ligue des Champions.
Tu m'as pas bloqué à moi puisque c'est moi qui ai commencé à le dire.
Non, le premier qui a dit une seule Coupe d'Europe, c'est Gilbert.
Mais
une seule Coupe d'Europe, il a dit.
Bah demande à Jérôme, tu vas voir. Tu vas voir Jérôme, c'est moi qui ai dit. Alors, ils ont gagné le même nombre de Coupes d'Europe.
Oui, mais c'est pas ça.
T'aurais dû bloquer après.
Parce qu'ils n'ont pas gagné le même nombre de Coupes d'Europe. La France n'a pas gagné le même nombre de Coupes d'Europe.
Mais après, que tu bloquais, j'aurais dit une seule Ligue des Champions.
Vous savez quoi Jérôme me dit un point chacun, parce que quelque part Gilbert a quand même été beaucoup plus précis.
Allez,
donc un
Gilbert,
point chacun.
On est fair play, Raphaël, on pourrait gueuler, mais on est fair play.
Attention, ils ont gagné.
Jérôme, on pourrait protester et dire que c'est 0-0, il n'y a pas de point pour personne, je suis désolé.
Vous pourriez protester, mais vu l'effet que ça fait, vous ne le faites pas, vous avez remarqué?
Non, c'est surtout que Jérôme n'a pas les. Bon, enfin bref.
Ouais, ça manque de
pas Jérôme Roten, Jérôme Thomas.
Ouais, c'est un peu le Jérôme du pénalty de Bernard Mendy qu'on a ce soir. Bon alors oui mais c'est moi l'arbitre. Je dis un point chacun. Attention, qui kiffe. Gabriel Batistuta, Gary Lineker, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo. Pas du tout. Thomas Müller, Paoletta. Non mais pas du tout, Paoletta, ça commence pas par un G, vous m'emmerdez, Thomas Müller non plus.
Le même nombre de
buts.
Ils ont été meilleurs buteurs.
Je bloque Daniel Riolo, tous les gens qui ne s'appellent pas Daniel Riolo, ils sont nombreux.
Ils ont mis le même nombre de buts en Coupe du Monde.
Pas du tout. Donne-moi une
seule. C'est le meilleur buteur de leur sélection en Coupe du Monde.
Non, ils ont fait un truc en Coupe du Monde qui est assez rare.
Ils ont marqué un quadruplé.
Triplé en Coupe du Monde, qui l'a dit? Triplé en Coupe du Monde, c'est Daniel.
C'est moi. Quadruplé dans un quadruplé, il y a un triplé aussi.
C'est Daniel. Ils ont mis un triplé en Coupe du Monde.
Non, c'est moi qui l'ai dit.
C'est Daniel en premier. En premier, c'est Daniel. Je vous l'annonce.
Pour les triplés? Ah non, pour mettre la vidéo, les gars, c'est moi.
Non, alors bah, Raphaël, tu te calmes parce que pour l'instant je suis pas violent, mais parce que t'es loin, mais je peux te retrouver.
Ouais, je suis tout seul sur mon balcon, viens si tu veux.
Mais. Eh ben tu sais quoi, alors va applaudir à 20h et après 20h je te casse la gueule. Alors écoute, point en suspens,
on va se concentrer.
Freddy Fautrel va vérifier, le point est en suspens.
Non.
Attention, quoi qu'est kiff, Schuster, Hugo Sanchez, Raoul.
Ils ont entraîné le Real.
Ils ont joué au Real.
Reyes, Juan Fran, ça ne suffit pas moi.
Ils ont joué au Real, ils ont
été meilleurs buteurs.
Ils ont joué au Real, mais ça me suffit pas.
Ils ont marqué aussi, en finale Ligue des Champions.
Non, ils ont joué au Real, mais ça ne me suffit pas.
Ils ont joué au Real et ils ont porté le 7.
Et à l'Atlético, Raphaël, ils ont joué au Real et à l'Atlético. Bien on se souvient pas très bien, mais Juan Fran a démarré au Real Madrid, et oui.
Et Raoul, il a joué Raoul officiellement à l'Atlético.
Ouais, il a joué. Il a joué.
Ouais, dans des équipes très très jeunes, ouais, très jeune.
Non, mais en professionnel, il a joué, Raoul.
Non, pas en professionnel.
Moi, je te le dis, moi, par exemple, je te le dis, c'était qu'ils ont porté le maillot de Real Atlético, c'est ça le point commun. Donc, moi, je te le dis que je le compte. Parce que c'est comme
si c'est en jeune et tout, quoi.
Ouais. Là, c'était. Le quoi qui kiffe kiffe. Attention. Quoi qui kiffe kiffe.
Tu veux faire un point score?
Je veux bien faire un point score.
En fait, c'est quand même hallucinant parce qu'à chaque fois, on invente des règles.
Gilbert et Raphaël 3, Jérôme 0, Pierre 1, Daniel 2.
Attention, on va faire un petit qui a commenté. Vous savez qui a commenté? Il faut trouver le commentateur ou le consultant qui a dit cette phrase magique. Qui a commenté? Il vient de vidanger une occasion là.
Gravelaine.
Qui a dit Gravelaine.
Emmanuel Petit ou
Franck Leboeuf? Xavier Gravelaine.
Oui, je le savais.
Il vient de vidanger d'occasion.
Comment tu sais ça?
Je le savais.
Mais parce que toutes ces phrases, il les connaît, il a des listings là-dessus,
oui,
il adore ça.
Bah c'est son grand truc, ça. Je l'ai dit tous les soirs.
Mais non, mais t'adores ça, alors, c'est vrai, t'adores ça. Les phrases comme ça, t'adores ça. Oh, arrête, Gilbert, je t'en prie.
Alors, Daniel, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les otages au Liban. Non, c'est pas ça. J'ai une bonne nouvelle. J'ai fait de Chirac. J'ai une bonne nouvelle. Le point t'est attribué. Tu étais le plus rapide sur la question, le point qui est en suspens.
Donc il Daniel 3 et nous 4, Raphaël.
Voilà.
Super.
Attention, on est toujours sans nouvelles par contre des autres otages au Liban. Pierre Ducrot, Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jérôme Rotten.
Les commentaires, on les entendait pas, nous.
Vous représentez vraiment bien le club du Paris Saint-Germain, c'est un bonheur. Ouais, attention, qui a commenté? Il y a tous les pays qui sont représentés, tous les pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne et le Japon.
Ramayad? Ah non, putain.
Non, Ramayad, alors c'est pas Ramayad, non, c'est un homme, tout de suite une gonzesse. Bon.
Emmanuel Petit.
Alors, c'est pas Emmanuel Petit, c'est un journaliste sportif qui, très jeune, a eu des responsabilités. Autre.
Billetterie, non.
Alors, un peu jeune, hein, j'ai dit. Hein.
Denisot.
Ah, mais il a été jeune à un moment donné.
Il a été patron des sports de cette chaîne, effectivement.
Charles Billetterie,
non,
Denisot.
Il a eu le Sled. Poste. Linette, qui a dit Linette?
Moi.
Pierre Ducrot. Pierre Ducrot, deuxième point pour Pierre Ducrot, Cyril Linette, il y a tous les pays européens, France, Italie, Espagne, Japon. Attention, qui a commenté? Comment? Alors, il demandait d'ailleurs à son consultant, parce que pour avoir un éclairage, mais comment on fait pour choisir 5 volontaires pour les pénaltys?
Arsène Wenger.
Non.
Oh bah non. Non, il l'aurait su quand même, j'espère.
Comment on fait pour choisir 5 volontaires? Allez, bah comment on fait pour choisir 5 volontaires? C'est quand même une phrase géniale.
Ouais, pourquoi?
Excuse-moi, j'ai pas réfléchi, tu vois, c'est très con. Ouais. Les volontaires, on les choisit pas.
Alors,
non, alors c'est quelqu'un qui malheureusement nous a quittés.
Gilardi,
Daniel Rioux.
C'est moi. J'ai dit avant, largement.
Suspens.
Je suis pas dans votre combat, Gilbert.
Tu n'es pas audible, Gilbert. Gilbert, tu es minable. Et Pierre, tu te calmes.
Je pose le micro, c'est ça. Moi, je suis pas dans leur truc, tu vois.
Pierre.
Donc si je te dis que je l'ai dit avant.
Pierre, si tu n'as pas de sang-froid, à un moment donné, tu ne pourras pas y arriver.
Je suis sûr,
parce que
c'est
parce que t'es un gosse.
Très calme, sinon t'as envie de t'en sortir. Si j'étais énervé, t'entendrais des bruits.
Rémi Fraise va vérifier, non?
Monsieur Bonichon est en train de vérifier. Attention, qui a commandé?
Et qui a le point du coup là?
Alors qui a le point? Mais qui on va vérifier.
On te dit que Monsieur Fraise vérifie là.
Voilà, attention. S'il n'y avait pas Véro, j'aurais épousé Zidou. J'aurais épousé Zizou.
Thierry Roland, Jean-Michel Larquet.
Zabel.
S'il y avait. Non, c'est plus près de nous.
Rességué, Jeannot Rességué.
C'est dit hors antenne. S'il n'y avait pas Véro, j'aurais épousé Zizou.
Ça veut dire quoi?
S'il n'y avait pas Véro,
il a dit hors
antenne. J'aurais posé Zizou.
C'était Fred Hermel. Il a dit hors antenne. C'était un point bonus. C'était la blague de
Zizou, Fred.
C'était évident. J'aurais épousé Zizou s'il n'y avait pas Véro. Il n'y a que Fred Hermel qui peut dire ça. Personne d'autre n'aurait dit cette phrase.
Oui, ça, c'est vrai.
Alors, ils ont été dit en même temps. Le point suivant me dit que ça a été dit en même temps. C'est extraordinaire. Ça n'est jamais arrivé dans le dans l'histoire du quiz.
Comment ils veulent voilà. pas ils veulent
donc,
pas
ça fait
vexer.
Quoi un point chacun
donc, ça ouais, fait en fait, un point chacun.
Il a pas de couilles, le Jérôme.
Point ouais. Score.
Ah ouais, il a pas de corona.
Jérôme,
il sait pas dire.
Zéro.
Il sait pas dire. Blanc,
Pierre Ducrot, 3. Daniel Riolo, 4. Raphaël et moi, 4 aussi.
Attention, on va faire un petit. Un petit. Il reste combien?
Il reste 10 secondes.
Ok, à qui est précoce? Faut me trouver. Alors, comme Mbappé en ce moment fait parler de lui pour des histoires d'arnaque, vous allez me trouver un joueur précoce. Je vais vous donner des indices. Vous êtes prêts?
Vas-y.
Un joueur précoce. Astérix, Zébulon, Polyglotte,
Paganelli.
Avignon,
Allende.
Paganelli, Gilbert Bribois, Paganelli. Ah, Paganelli, ouais, Paganelli. Bien joué, c'est la fin du quiz.
C'est fini, on a gagné.
C'est
Raphaël.
Fini.
Moi, c'est victoire. Ces bravo, questions-là, Gilbert. Je les comprends même
bravo,
pas.
Bravo, Raphaël.
En fait.
On va t'envoyer un t-shirt de l'after.
Ce
c'est fini pour ce soir.
Astérix, pourquoi Astérix, Paganelli, c'est quoi l'histoire?
Parce qu'il ressemble un peu, il est petit, blond.
Il est petit, il est blond. Après, il est moins malin.
En fait, c'est toi qui décides de à qui il ressemble.
C'est fini.
Il a un chien aussi. Il a un petit chien.
Arrêtez, parce que moi, je ne les comprends pas, ces quiz-là.
Merci, Julien.
Ça ne sert à rien de faire ça.
À demain soir, 22h dans l'after. Et encore bravo, Raphaël. Bonne nuit à tous.
RMC. L'After Foot.